Oui, parce qu'aujourd'hui, notre épisode dont on ne sait plus le numéro est consacré à une série, certes, qui a marqué notre enfance, mais qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable, je dirais.
Ça nous a laissé un souvenir périssable. Voilà.
C'est un souvenir, bah oui, tellement périssable qu'on l'avait oublié jusqu'à il y a peu.
Ouais.
Et on s'en est souvenu en plus parce qu'on a vu des gifs au même. On a vu des gifs ou des mèmes ou des vidéos au même moment sur le même truc.
Ouais, sur les réseaux, déjà, ça se demandait comment c'est ressorti ce genre de truc.
Je sais pas du
En
tout.
plus, dans notre feed, à peu près au même moment, c'est très étrange.
Ouais, je pense que l'univers nous envoyait un message du genre, oui, parler de cette série. Je sais pas pourquoi l'univers nous envoyait ce message, mais pourquoi pas. Du coup, cette série, est-ce que tu veux dire son titre? Encore une fois, on l'a complètement éludé, mais c'est OK.
Alors, donc, attention, nostalgie. Nous allons parler de 7 à la maison. Je sais même pas s'il y a des gens qui se souviennent de cette série, en fait, parce que c'est quand même un truc un peu niche, hein. On peut pas dire que ça fait les belles heures vraiment de TF1. Donc.
Je sais pas si c'était tellement niche que ça, parce que ça passait tout de même à 1 heure de grande écoute, comme on dit
Passer
ça.
le dimanche.
Non, ça passait que le dimanche.
Mais pour moi, ça passait que le dimanche. Hein.
Ah, pour moi, ça passait pas que le dimanche.
Ah bon?
Ah, déjà, on est plus, tu vois, preuve que ce souvenir était assez périssable. On n'est
Non,
pas
attends.
d'accord.
Peut-être qu'au tout début, quand on a découvert, ça passait la semaine, genre vers 17h,
Ben, moi, j'avais ça en tête. Hein.
7h30. Ouais, t'as raison. Et c'est après, en fait, les dernières saisons que j'ai jamais vraiment vu, enfin, ou de manière très très décousue, un épisode par-ci par-là, où ils avaient basculé ça au dimanche après-midi et ils en passaient 5-6 d'affilée. Toute l'après-midi, c'était 7 à la maison.
Ouais, c'est possible.
Ouais.
Oui, c'est fort probable.
Maintenant
Mais
que tu le dis, effectivement, ça a commencé en semaine, je pense. Ouais.
pour moi, c'était en semaine. Parce que, je sais pas, j'ai gardé souvenir que c'était en semaine.
Non,
Non, non.
mais t'as raison, je pense qu'on a découvert la série comme ça.
Ouais, non, c'était. Ouais, donc ouais, c'est à la maison. J'en ai un souvenir assez spécifique, c'est la musique, le
Mais
générique.
tellement, moi aussi.
Oh, c'est incroyable. Ce générique me reste en tête et m'est resté en tête longtemps parce que du coup c'est le premier truc auquel on pense quand on en parle.
Ouais.
J'étais avec notre petite cousine hier et quand je lui ai dit oui on va faire 7 à la maison, direct, elle s'est mise à chanter le générique.
Mais oui, mais c'est normal. Enfin, pour moi, c'est bah, un petit peu comme le générique de Newport Beach.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une série qui est totalement périssable et totalement oubliable. Par contre, le générique reste en tête. Et ça, je pense que c'est peut-être la réussite de la série, c'est d'avoir fait un générique sympa qui voilà, qui dure et dont les gens se souviennent.
En plus, c'est un peu un générique typique de ces années fin 90, début 2000, parce que c'est un générique long, donc du coup, il y a le temps pour la chanson, enfin le générique en lui-même, de se développer un peu. On te présente tous les personnages avec des petits arrêts sur image, dans des postures un peu caricaturales durant la série, tu sais, avec des petits hochements de tête, des petits signes caméra, des bisous, bon, bref, comme ça, tu comprends très vite les liens les uns avec les autres.
Ouais.
Et je sais pas si tu as écouté les paroles attentivement de la musique, mais j'ai l'impression du coup qu'elle a été écrite exprès pour la série.
Alors totalement, en fait, donc moi j'ai regardé l'épisode en anglais et j'avais mis des sous-titres et en fait j'ai découvert les paroles du générique parce que quand j'étais petite, je chantais en yaourt, hein, on va se mentir, le générique et je ne comprenais pas du tout à quoi ça faisait référence. En fait, petite, j'aimais juste bien la musique.
Ouais.
Je trouvais la chanson catchy, mais je ne comprenais absolument rien et je faisais du yaourt. Et là, j'ai découvert les paroles et effectivement, je me suis dit, ok, donc ça, c'est vraiment la chanson pour la série, cucu au possible,
Ah ouais,
et
c'est
qui
ouf.
soutient totalement le propos de la série, en fait. On est tellement en adéquation que ça ne peut pas avoir été fait autrement que pour la série, c'est pas possible.
Alors du coup, en parlant du propos de la série, est-ce que je te pose la question par tradition, mais je vais finir par le faire. Est-ce que tu veux faire le résumé?
Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Je pourrais faire le résumé de l'épisode si tu veux, mais okay. Je ne sais même pas s'il y a besoin d'ailleurs, parce que ça ne va pas être vachement différent du résumé de la série, je pense. Mais bon.
Non, c'est clair. Après, le résumé de la série, je peux le faire de manière très rapide, parce qu'en fait, c'est très rapide. Hein.
Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein.
Non. Donc, la série 7 à la maison, dont le titre original en anglais est Seventh Heaven. En français, on a gardé le titre 7 parce que je pense que le chiffre était sur le placard du générique, donc on s'est dit, bah, on va garder le chiffre, c'est bien.
Bah, puis parce qu'ils sont 7, surtout au début de la série.
Et parce qu'ils sont 7 au début de la série. Mais le 7e ciel en anglais et le mot heaven indiquent un peu la tonalité de la série. Ouais. Parce que 7 à la maison nous présente donc la famille du révérend Camden.
Ouais.
Le père de famille, donc qui est révérend, qui a une femme et qui ensuite. D'abord, dans un premier temps, 5 enfants, puis 7 enfants un peu plus tard dans la série. Et en gros, la série raconte la vie de cette famille Camden, ancrée un peu dans la religion, hein, on va pas se mentir.
Beaucoup même.
Avec ses petits soucis, c'est-à-dire des enfants qui se développent et qui grandissent et qui rencontrent la puberté, les premiers amours, les premiers métiers, les études, tout ça, tout ça. Et dans un cadre très religieux, très moralisateur, très américain moralisateur, parce que c'est quand même important de préciser.
Mm.
Et la série parle de ça, donc pendant 11 saisons, c'est très très long. C'est beaucoup trop long.
Bah surtout sans action aucune, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup des gens assis qui parlent et...
C'est beaucoup de bons sentiments et de bondieuserie.
Ouais.
Voilà, donc c'est le résumé global de la série, c'est ça. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin.
Voilà, ils ont quand même fait 11 saisons là-dessus, hein, donc faut...
C'est assez incroyable. C'est
léger. Mais
j'ai pas vérifié à quelle date ça avait commencé.
Alors, j'ai regardé, je crois que ça a commencé en 96, donc aux États-Unis, et que la diffusion en France, par contre, avait commencé en 99. Donc, comme d'hab, à cette époque-là, un petit peu de retard, mais ma foi, pas tant que ça.
Donc voilà, 11 saisons de bondieuserie, de moralisation, de bons sentiments, de blabla, de machin. Du coup, ça me demandait pourquoi j'aimais bien. Enfin, je sais pas si je dirais que j'aimais bien, mais j'ai regardé cette série quand j'étais jeune. Je sais pas ce qui m'a agrippée. Enfin, en tout cas, oui, je me dis que petite, je pense que la musique devait attirer mon attention. Peut-être aussi les personnages qui sont castés pour être tous beaux.
Oui.
Les enfants sont tous beaux gosses, hein. Y a pas un raté.
ouais, c'est vrai.
Et après, on les a très peu vus ailleurs, les acteurs qui jouent les enfants, que dans cette série. La plus connue d'entre elles, c'est Jessica Biel.
Ouais, bah c'est la seule qui s'en est sortie un peu.
Et bah, elle a quitté la série avant la fin.
Oui. Oui, mais ça, c'est pas la seule, parce que l'acteur qui fait Matt...
Ah, le plus grand frère.
Il est parti aussi un peu avant. Alors, je crois qu'après, on le revoit plus fréquemment que le personnage de Marie. Mais il est parti aussi avant. Parce qu'en plus, comme c'était l'aîné de la fratrie,
oui, c'est vrai.
Il y avait plus moyen de le faire sortir du cocon familial plus tôt, quoi, dans l'histoire aussi.
Oui, parce que du coup, j'ai présenté très succinctement la famille avec le révérend Camden et sa femme, oui, et leurs enfants. Mais dans les 5 enfants qu'on connaît et qu'on va côtoyer dans l'épisode qu'on a regardé pour aujourd'hui, c'est-à-dire le pilote, il y a Matt, l'aîné, qui a quoi ? Qui a 17 ans. 16 ans, ouais. Ensuite, il y a Marie, qui a 14.
Ouais.
Après, on a Lucie,
qui a 12 ans.
Après, il y a Simon, qui doit en avoir 10.
Ouais, qui a 10 ans, ouais.
Et la petite dernière, du coup, c'est Rosie.
Ouais, Rosie, et elle a 5 ans, je crois.
Elle a 5 ans, ouais, 5-6 ans. Donc Marie, c'est la seule actrice, c'est le seul personnage dont l'actrice est restée connue, on disait, c'est Jessica Biel.
Qui accessoirement a fini par épouser Justin Timberlake, quand même.
Comme quoi, tout est possible, on peut passer de fille de révérend à épouse de
Justin. Moi, j'ai envie de dire, 7 à la maison mène à tout. Hein,
c'est vraiment, les voix du Seigneur sont impénétrables. Est-ce que tu veux te faire le résumé de l'épisode ?
Ouais, du coup, on peut.
Tu te sens pas obligée ?
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je réfléchis à comment résumer cet épisode où, en fait, il ne se passe pas grand-chose.
Bah, tu peux peut-être mentionner les 2-3 intrigues au cœur,
oui,
de l'épisode ?
Oui, oui.
Ouais.
Oui, on va faire ça. Donc, on a regardé le pilote, donc le premier épisode de la série. Donc, comme tout bon pilote qui se respecte, bah, ça pose un petit peu les, les bases de ce que va être la série, ça pose les personnages, les relations entre eux, tout ça. Donc on a un petit exposé, je vais dire, au début sur la famille Camden. Donc ils nous présentent tous les enfants, on voit rapidement que le père et la mère, donc Annie et Eric, sont plutôt très amoureux. Bon, en même temps, ils ont pondu 5 gosses, donc on se demande pas.
Non, parce que
je tiens quand même juste à faire un petit... J'ai trouvé qu'il y avait un nombre de roulages de pelles très très important dans cet épisode. Non, mais t'as pas remarqué?
De la part des parents, un peu, ouais.
Oui, non, parce que sachant qu'on est quand même... C'est quand même un révérend. En plus, quand on a vu d'autres épisodes de la série, on sait que c'est quand même très très axé sur la religion et sur les bondieuseries. Donc oui, moi, j'ai trouvé ça un petit peu olé olé, tout ce qui se pèle le premier épisode.
Un peu olé olé. Non, mais il est révérend, il n'est pas prêtre. Et là est toute la différence. C'est quand même... voilà, il a une famille, hein, on est sûr.
Alors, oui. Non, mais là-dessus, ok, mais c'est... ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... La religion a quand même une très grande place dans leur vie. Et oui, quand, en plus, tu connais certaines des intrigues qui viennent dans la série...
Ouais, c'est vrai.
Tu te dis que c'est un petit peu étonnant d'être aussi porté sur la chose en public, en tout cas. Bref.
Après, c'était samedi. C'est le jour où...
Oh, la gênance. Alors, on va... Pardon, en fait, je vais sortir un petit peu du résumé là, mais on va exposer la première scène de la série qui est cringe à souhait, s'il vous plaît. Donc, première scène, vraiment, c'est l'ouverture de la série. Hein. Oui, c'est on vrai. Est dans une chambre à coucher et la caméra arrive sur la tête des parents qui se réveillent de bon matin et commencent gentiment à se faire des petites papouilles. Et on se doute d'où va les mener ces petites papouilles.
Où vont les mener,
ces petites papouilles. Et sauf que là, hop, 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 ça toque à la porte et la petite dernière, Rosie, arrive. Elle monte sur le lit, les parents se regardent un petit peu gênés en se disant « Bon, bah mince, ce sera pour la prochaine fois. »
C'est raté.
Et tous les enfants rentrent un à un dans la chambre. Et voilà. Le dernier, le grand Matt, qui a 16 ans, arrive et voit tout le monde sur le lit et il dit à ses frères et sœurs « Vous savez, on est samedi. » Ils le regardent tous d'ailleurs de dire « Oui, alors ?» Et il leur répond « Vous savez, samedi, c'est le jour où papa et maman, ils font la grasse mat. » Avec un regard très, très appuyé, très, très gênant.
T'es tellement naze.
Et donc, tous les enfants se regardent. Ils se disent « Merde, ok ?» Ils se lèvent, ils sortent. Et j'ai trouvé que c'était encore plus gênant ce moment où les parents regardent Matt et lui disent « Merci !» Et là, et Matt sort de la chambre et on se dit « Mais en fait, ils ont continué ce qu'ils avaient commencé. »
Bah, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein,
non, mais c'est juste, tu vois, la gênance de...
C'est vrai que c'est bizarre comme scène de présentation, parce que ça présente toute la famille, tu les vois tous unis, tu comprends que la famille est importante.
Bah, alors, c'est ça.
Le cœur de la série, gna 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 et tout.
Bah, puis en plus, tu vois rentrer les gamins, tu te dis, mais en fait, ça s'arrête jamais, ils en ont combien?
Il y a ce truc-là aussi. Mais ils auraient pu faire une scène de présentation où la famille, c'est important, en utilisant juste la scène d'après où ils sont au petit-déj tous ensemble, quoi.
Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, moi, j'ai trouvé que la place de la sexualité dans cet épisode était... En fait, c'était disproportionné par rapport au reste. C'est-à-dire que, surtout oui. Vu les storylines et le côté très, très
religieux.
Croyant, religieux de la famille... Mmh. J'ai trouvé ça un peu bizarre, surtout qu'après, ils ont des positions quand même très arrêtées là-dessus. J'ai trouvé que c'était bizarre comme manière d'introduire la série, en fait.
Alors après, on referme la parenthèse pour que tu termines la présentation. Mais je me pose la question, et je ne sais, je pense pas qu'on sache, ou alors faudrait chercher. Mais tu sais, il y a des fois des différences entre les pilotes qui sont présentés aux chaînes pour ensuite choisir si elles vont produire oui ou non cette série, ouais. Et les pilotes diffusés.
Ouais.
Si ça se trouve, je me pose la question là pour cette à la maison, quand le pilote a été présenté, c'était ce pilote-là tel quel,
mm-hmm.
Et ils se sont dit, bah oui, on le diffuse, il est assez bon pour être diffusé, et il colle avec globalement l'énergie qu'on va donner à la série. Mais ensuite, ils ont modifié certains traits de caractère et de caractérisation des persos en retirant un peu trop les allusions à la sexualité. Enfin voilà, ça se trouve, le pilote a vendu quelque chose, a présenté quelque chose aux chaînes. Les chaînes ont dit, bon, on accepte ce pilote, on n'en retourne pas un nouveau parce que bah, pas de thunes.
Mm-hmm.
Mais par contre, vous allez me changer certaines choses, vous allez me retirer tout ce qui est un peu trop sexuel, parce que bah, on a déjà compris qu'ils avaient des relations sexuelles, ils ont eu 5 enfants, donc merci. Pas la peine de le mettre ensuite au nez tout le temps des spectateurs, quoi.
Mm.
Donc voilà, je me pose la question, peut-être que ce pilote est le pilote qui a été réalisé dans un premier temps et qu'ils l'ont gardé tel quel sans prendre le temps de le modifier. Ou alors peut-être que c'est un choix d'écriture qui a été modifié après coup suite à des retours de téléspectateurs, je sais pas non plus. Mmh. Mais c'est vrai que par rapport à des storylines ensuite où les enfants ont leur première relation sexuelle, etc., etc., c'est vrai que cet épisode a l'air beaucoup trop ouvert. Peut-être presque de la publicité mensongère, tu vois. T'aurais presque l'impression que c'est novateur, quoi.
Bah, franchement, ouais. En fait, c'est ça, c'est que je pense que comme on a une connaissance de ce qu'est la série après, moi, j'ai trouvé ça un peu perturbant. Mais bon, pourquoi pas, quoi, parce qu'après, on voit que voilà, c'est des parents qui s'aiment, qui sont bien ensemble, qu'on fait des enfants parce qu'ils les voulaient, et qui sont heureux de leur famille, en fait, voilà.
Oui.
Donc, j'ai envie de dire, c'est le plus important.
Oui. Ouais, ouais.
Donc, bon, donc pour refermer cette parenthèse, donc le pilote, voilà, donc nous présente cette famille avec deux parents aimants, les 5 enfants. Et il commence à mettre en place des petites des petites intrigues, si on peut appeler ça comme ça, parce que bon, voilà. Donc on va commencer par le plus grand, Matt, donc l'aîné, qui lui a 16 ans. Alors lui, l'intrigue, c'est que il fume en cachette, et bien évidemment, alors on sait pas trop comment, mais son père l'apprend, mm-hmm. et donc il va vouloir le faire arrêter. Ensuite, donc après Matt, il y a Marie. Marie, elle, son intrigue, c'est que Marie est plus grande que tous ceux de sa classe, et y compris plus grande que les garçons. Et donc, elle aimerait bien commencer à sortir avec des garçons, et surtout, elle aimerait bien embrasser un garçon. Okay. Mais comme elle est plus grande que tout le monde, et bah, soi-disant, les garçons veulent pas l'embrasser, et elle, elle veut pas embrasser un garçon plus petit qu'elle, quoi. Alors déjà, c'est dire la profondeur de... du truc, mais bon, elle est censée avoir 14 ans, donc on se dit, ok,
pourquoi pas,
la tête d'une gamine, why not. Ensuite, Lucie, elle, son intrigue, c'est que elle aimerait avoir ses règles. Ses copines à l'école ont leurs règles, et elle les a pas, et donc elle se demande, pourquoi pas moi, je suis pas comme les autres, je vais jamais les avoir, je vais être stérile, je vais terminer toute seule, enfin bon, voilà, quoi, un truc un peu inqualifiable, j'ai envie de dire. Ben voilà. Ensuite, on a Simon qui a 12 ans. Lui, son intrigue, c'est qu'il veut un chien. Alors, il réclame un chien comme plein de gamins. Voilà, il a 10 ans et il veut avoir un chien. Il veut montrer à ses parents qu'il est assez mature pour s'en occuper. Voilà. Donc, il réclame un chien tout l'épisode. Non, honnêtement, c'est un peu relou. Enfin,
oui,
c'est le seul truc qu'ils ont trouvé à donner comme storyline à ce gamin, c'est je veux un chien. Ok.
D'accord, ok.
Ok, et donc, et il est aidé dans cette quête par sa petite sœur, Rosie, qui a 5 ans, ouais. Et dont il se sert comme
ah oui,
un
c'est...
chien, comme d'un kleps.
Ouais, c'est horrible.
C'est-à-dire qu'il lui dit, assis, couché, donne la patte, enfin vraiment. Et comme elle a 5 ans, elle le fait. Et franchement, j'ai trouvé ça un peu dérangeant parce que je me suis dit, petite, tu regardes ça, tu te dis, ah, c'est mignon. En plus, franchement, pour le casting, la petite qui joue Rosie, elle est juste craquante. Elle est kiki au possible.
Oui.
C'est vraiment, t'es in love, quoi, quand tu regardes sa tête. Elle est vraiment trop mignonne. Et donc, on peut se dire, ah, c'est chou. Mais en fait, j'ai trouvé ça un peu chelou quand même parce que son frère, il a 5 ans de plus qu'elle et il la traite vraiment comme un clébard.
Ouais.
Genre il lui dit oui t'es une bonne fille tout ça
ouais c'est pas ouf
enfin c'est vraiment il lui parle comme un chien quoi mais en plus littéralement donc ouais j'ai trouvé ça un peu glauque donc voilà bref les histoires les différentes storylines de l'épisode
une storyline par enfant du coup
voilà alors ça peut paraître un peu beaucoup mais comme l'épisode dure 45 minutes bon ça va hein, ils ont eu le temps de tout
puis les storylines sont pas des storylines avec des gros enjeux
Non.
Le problème de Simon qui veut avoir un chien, bon, bah, ça se règle rapidement. Hein. Le problème de Lucie qui veut avoir ses règles, bon, bah, ça se règle aussi rapidement. Le problème de Marie qui veut sortir avec des mecs plus vieux, en 2 secondes, c'est plié. Et le problème de Matt qui fume, en 2 secondes, c'est plié.
Ouais.
En fait, très honnêtement, chaque storyline est assez simple à régler. Et ce qui fait la série, c'est comment les parents, au milieu de tout ça, réagissent, se démènent, se comportent. Enfin, voilà, quoi. Comment ils font face.
C'est ça.
Et cet épisode donne la part belle plus au père qu'à la mère, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, la série donne la part belle plus au père qu'à la mère, même si la mère a un rôle important quand même. On voit quand même que le pilier, c'est le père, parce que tout est fait sous son regard à lui, parce que c'est lui le révérend. Et en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas C'est à la maison. Déjà, dans tous les épisodes, il y a une scène où c'est un dimanche et ils sont à l'église et lui fait son sermon.
Oui, c'est vrai.
Il y en a toujours au moins une dans un épisode, et il y en a même souvent deux. Et en fait, bah, en général, l'épisode se déroule, et ce qu'ils ont appris, entre guillemets, avec les obstacles qu'ils ont rencontrés, et bah, ça alimente le sermon du père pour le dimanche qui vient, quoi. Parce qu'il a appris une leçon, tout ça, quoi.
Ouais, j'allais dire, en fait, on le voit écrire son sermon souvent pendant l'épisode, pardon, en l'enrichissant des aventures qui arrivent à sa famille et à ses enfants, en fait.
C'est ça.
La religion, je pense que c'est un élément essentiel, hein, effectivement, parce que ça irrigue les bons sentiments qui sont présentés après, la petite morale, l'aspect... tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais il n'y a pas que ça, moi, qui me dérange dans la série et qui m'a dérangé en re-regardant le pilote, en fait. Parce que les éléments gênants de narration pure qui reposent pas autour de la religion, il y en a plein.
Oui.
Genre je repensais un truc, mais en fait, quand tu regardes la série,
ouais.
Le premier épisode, pendant un bon moment, tu sais pas qu'il est révérend. Oui. En fait, tu l'apprends que assez tard dans l'épisode,
oui,
qu'il est révérend. Sinon, au départ, en fait, le matin, bah, tu tombes sur un couple amoureux qui est dans le lit, qui a envie de se retrouver en tant qu'adulte et qui est dérangé, bon, par ses enfants. Donc, à la limite, tu te dis, bon, bah, ok. Ensuite, au petit déjeuner, il récite les bénédicités, bon, bah, ok. Mais il y a plein de familles qui le font sans que le père soit révérend.
Oui, oui.
Ou pasteur, ou ce que tu veux. Et puis plus la série avance, tu les entends, t'entends pas trop les enfants parler de ça, t'entends Simon un moment qui jure et son père qui lui dit bah ne jure pas.
Ouais.
Moi ça m'a rappelé dans La vie est un long fleuve tranquille.
Ne jure pas Marie-Thérèse, ne jure pas.
Voilà, ça m'a rappelé ça. Et dedans elle n'est pas révérente entre guillemets ou révérende, je sais pas comment on dirait. Et elle est pas, enfin ils sont catholiques mais elle n'est pas active dans la communauté religieuse, quoi.
Bah non, parce donc, que chez les cathos, les femmes ne peuvent pas.
Voilà. Et donc, du coup, tu pourrais, jusqu'au moment où tu vois le père habillé en tenue de révérend avec... alors, je ne connais pas les termes, du coup, exacts, mais du coup, avec son espèce de grande robe,
ouais.
Son habit et puis son écharpe de révérend. Jusqu'à ce moment-là, tu peux ne pas savoir que c'est une série hyper religieuse.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce que, en fait, on capte déjà que c'est religieux. Parce que tu disais, au petit-déj, ils font les bénédicités.
Ouais, mais aux États-Unis, ils sont vachement plus là-dessus que nous. Hein,
oui, mais quand même. Parce que, et puis, c'est pareil la mère discute avec Lucie, qui est enfermée dans le placard parce qu'elle n'a pas ses règles et qu'elle est au bout de sa vie et qu'elle est malheureuse et tout. Ta mère lui parle. Et bon, ça suffit pas pour que sa fille aille mieux. Mais la mère, après, discute avec le père et elle lui dit « Oui, mais j'ai déjà essayé de lui citer... » Enfin, c'est ce que je lui ai cité ce matin et tout. Et en fait, j'avais pas compris, mais en parlant à sa fille, elle lui avait cité un passage de la Bible.
Oui, ah oui, dans la VF, c'est un peu plus clair.
Oui. Bah ouais, mais bon, moi je pense que je connais pas aussi assez.
Non, ouais. Non, non, dans la VF c'était plus clair. Alors oui, parce que Pauline l'a vu en VO, moi je l'ai vu en VF. Ouais. Moi je l'ai vu en VF par nostalgie des voix françaises dont je me souvenais très bien.
Ouais.
C'est purement pour ça. Mais oui, ok, elle lui cite, d'accord. Et Simon, quand il veut un chien, il dit si Dieu existe, il va m'envoyer un chien. Effectivement.
Voilà, et puis le père dit non, mais Dieu existe, je te jure. Enfin, non, enfin, du coup, je te jure pas, mais. Je t'assure qu'il existe, t'inquiète pas et tout. Donc il y a quand même beaucoup sur un... Parce qu'il se passe peut-être quoi, 25 minutes avant qu'on apprenne que...
Au moins,
30
ouais.
minutes avant qu'on ouais. apprenne que le père est révérend. Et il y a quand même, en 30 minutes, il y a quand même beaucoup de références à la religion et à Dieu. Alors ouais. que dans les autres séries, c'est quand même pas le cas, quoi. Alors, donc, on comprend quand même tout de suite qu'il y a un oui. certain propos derrière.
On comprend que la place du... J'allais dire la place du Seigneur. L'enfer. L'horreur. La place de Dieu et de la religion ne va pas être négligeable dans cette série. Ça, je suis d'accord. Mmh. Après, on n'est pas au courant du tout qu'il est révérend.
Non,
donc,
non, non.
Tu pourrais te dire, juste, c'est une autre famille extrêmement religieuse. Mais il y a une différence entre on est religieux et on vit notre vie et en fait on est confronté à des problèmes et on va les traiter, on va les voilà, on va y survivre. Mmh. Et on est religieux, je suis révérend quoi. Genre ça change un peu la donne pour moi au niveau de la narration et au niveau de la réaction de certaines choses, tu vois. La façon dont il peut gérer un problème, par exemple le problème avec Matt qui fume. Mmh. Le révérend embauche une de ses paroissiennes
ouais.
pour faire semblant. Donc déjà, c'est du mensonge, c'est pas très bien.
Mais c'est pour la bonne cause, attention.
Ça reste mensonge. il embauche une paroissienne qui doit faire semblant d'être atteinte d'un cancer du poumon et d'être sous respirateur. Et en fait, elle fait semblant d'être malade et elle fait flipper Matt en lui disant « Mais oui, mais vas-y, paye-moi des clopes. » Et lui, il lui dit « Mais vous avez un cancer. » Elle dit « Mais je m'en fiche, toi aussi, t'es fumeur, tu sais ce que c'est. Mm. Ouais, j'ai besoin de fumer et tout, machin. » Et du coup, tu vois que le révérend, il utilise sa paroisse, les paroissiens et les paroissiennes qui sont sous sa coupe, on va dire. Et ça, c'est un truc que quand t'es pas révérend, tu fais pas. Enfin, tu gères autrement ton problème, je sais pas. Le fait qu'il soit révérend, ça colore différemment ce genre d'action et de réaction.
Ouais, mais moi, je trouve ça dangereux parce que t'as l'impression que limite, on se dit « Ah ouais, non, mais il a raison ». Tu vois, c'est pour le bien de son fils et tout, juste parce qu'il est révérend, alors que le mec serait pas révérend, on se dirait juste non, mais il en fait des caisses, il est pas bien. Enfin, c'est
bah, moi je me suis dit, je me suis pas dit il a raison parce qu'il est révérend, je me suis dit non, mais il déconne, ça se passe comment, tu vois.
Oui, nous, oui, non, mais nous on s'est dit ça,
ouais,
mais tu vois, est-ce qu'un public qui aime la série, surtout à l'époque où ça a été fait, ou tu vois, je pense que tu prends ça premier degré. Donc effectivement, on ne sait pas qu'il est révérend au début, mais on comprend quand même tout de suite que la religion a une grande place dans l'histoire.
Ouais.
Et même dans la manière dont sont traitées les storylines, j'ai été mal à l'aise, honnêtement, avec la storyline de Lucie, donc qui veut avoir ses règles.
Ah oui.
Le traitement de ça, parce qu'au tout début, je me suis dit... Oh bah, ils ont le mérite déjà de dire le mot « règle » je ne sais combien de fois dans l'épisode.
Oui, c'est vrai.
Je me suis dit, on est quand même en 96, c'est une gamine qui a 12 ans et tout. Je me suis dit, franchement, a priori, enfin, bien quoi.
Ouais.
Parce que, effectivement, à 12 ans, si tes copines commencent à avoir leurs règles, enfin, tu vois, c'est une interrogation que t'as.
Ouais.
Je pense qu'ont eu toutes les ados dans ce cas-là, tu vois, c'est-à-dire, bah, ça va arriver quand, pourquoi pas moi, enfin.
Est-ce que je peux les éviter?
Alors, bon, moi, effectivement, j'aurais plus été dans cette optique-là. Là, le personnage de Lucie veut avoir ses règles. En fait, parce qu'elle veut être comme tout le monde, elle veut être une ado ordinaire, et voilà.
Elle veut devenir une femme, elle le dit. Hein.
Oui, voilà.
On pourra creuser là-dessus tout à l'heure, le fait que les règles égalent des femmes, mais on en parlera après.
Ouais, mais... Donc ça, à la limite, on se dit, c'est un sujet qui colle à l'âge du personnage, qui est plutôt réaliste en soi. Donc, je trouve qu'au début, ça s'engage plutôt bien. Tu te dis, c'est plausible.
Mm-hmm.
Et puis, alors après, ça part en cacahuète. Parce que donc les parents essaient d'avoir une discussion avec elle pour lui dire, mais tu sais, ça viendra quand ça viendra. En gros, voilà, t'inquiète pas, t'as le temps. 'Fin... Mais je trouve que c'est fait d'une manière un peu maladroite, parce que déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, ils essaient de lui dire ça, mais en lui citant la Bible.
Oui, c'est vrai.
Alors bon, je n'ai pas lu la Bible, hein, j'avoue mon ignorance là-dessus, mais je ne suis pas sûre que les règles aient une place prépondérante dans l'histoire.
Bah oui, non.
Donc je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup cette gamine de 12 ans à sortir de son mal-être. Mais bon, why not? Et puis, même la manière dont les parents en parlent entre eux, je sais plus, le père, à un moment, il dit cette phrase, je sais plus, c'est un truc du genre, mais j'aimerais faire de mon mieux pour l'accompagner sur ce merveilleux voyage qu'est le fait de devenir une femme et tout. Et t'es là en mode, mais quoi? Quoi? Alors déjà, tu te dis, il n'y a qu'un mec qui peut dire un truc pareil.
Le merveilleux voyage que t'as fait, règle. Oh, c'est génial.
Voilà.
Après, bah, y a la mère qui le recadre un peu.
Oui, un petit peu, oui.
Mais qui lui dit bon. T'es mignon, merveilleux voyage, merci, quoi.
C'est ça, et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mal, parce qu'elle lui dit, non, mais en fait, attends, ta fille, elle a 12 ans, c'est surtout un moment gênant, embarrassant, elle est pas bien dans sa peau. Enfin, voilà, et tu te dis, bon, ok, alors, effectivement. Mais le père, il part dans des envolées lyriques, on se demande. Vraiment. Et puis même, donc, alors évidemment, à la fin de l'épisode, elle a ses règles, parce que forcément, il ne pouvait pas faire attendre ça plus de 2 épisodes, donc tout de suite, ça tombe. Les règles arrivent, donc la gamine est super contente, elle saute partout, ah super, ça y est, j'ai mes règles. Et le père lui dit quand même, félicitations.
Oui.
Et je ne sais pas, ça m'a paru... étrange, en fait. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est une situation où tu dis bravo à ta fille, enfin bravo de quoi déjà, elle contrôle pas, en fait. Je sais pas, j'ai trouvé ça comme si c'était un truc, tu vois, de ça y est, t'as passé un cap, ouais, maintenant t'es une femme, tu vas embarquer vers ce merveilleux voyage vers la féminité, enfin tu vois, un truc...
horrible.
Et puis vraiment, il a les larmes aux yeux, enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'ils en faisaient beaucoup, en fait, enfin je...
Bah, en fait, je pense qu'ils en faisaient beaucoup et qu'on ressent ça en regardant le truc, parce que c'est pas vécu, pas beaucoup vécu en tout cas, au travers du ressenti de Lucie. C'est plus vécu au travers du ressenti des parents et du père en particulier, et de ce que lui, ça peut lui apporter. Genre, quand il parle des règles de sa fille, donc à aucun moment il se met à la place de sa fille qui... désire avoir ses règles parce que elle veut se sentir effectivement comme tout le monde, mais il en parle plus par rapport à ce que lui, ça lui procure et ça peut lui permettre de faire, si sa fille avait ses règles. En mode, il regrette l'époque où Marie avait eu ses premières règles et elle lui en parlait ouvertement et du coup il se sentait impliqué et inclus dans la vie de son enfant. Là, c'est... un autre enfant, et d'ailleurs la mère le dit à un moment, genre, oui, Lucie n'est pas du tout comme Marie, donc tu pourras pas avoir la même réaction chez les deux. Et en fait, cet enfant-là, Lucie ne souhaite pas trop en parler avec lui, même à un moment, part en courant pendant l'office, parce que il cite, lors de son sermon, la même référence qu'avait cité la mère à Lucie pour essayer de la rassurer. Donc, Lucie s'imagine en fait que son père va parler de ses règles devant tout le monde, et alors là, elle panique, elle se barre. Lui, il comprend pas pourquoi, parce qu'au moment, il est pas au courant de la conversation qu'ont eue Lucie et sa mère. Et en fait, toute la conversation des règles, elle est vécue par le prisme du père et des parents, mais surtout de Eric. Et de comment lui, ça le fait se sentir, de savoir que sa petite fille va devenir une femme et qu'elle va pouvoir... Alors, je crois qu'il le dit aussi, donc le merveilleux voyage que c'est d'être une femme et d'être une mère.
Ouais.
Automatiquement, en plus, alors c'est là où la bondieuserie arrive à fond de caisse, c'est t'as tes règles, donc tu vas devenir maman. Tu vas être... Enfin, en fait, c'est ce qui te permet de porter la vie. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un lien logique sur le plan biologique qui, effectivement, à partir du moment où tu as tes règles, tu peux avoir des enfants.
Oui, mais lui, il ne le fait pas en tant que lien logique, il le fait en tant que lien moral.
Effectivement.
Il ne le fait pas en mode, oui, effectivement, d'un point de vue biologique, une fois que tu as tes règles, c'est-à-dire que ton utérus est prêt à recevoir un embryon fécondé, lui, il n'est pas là-dedans.
On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils auraient pu, si vraiment ils tenaient à aborder le sujet de... elle pourra devenir mère, tu vois, ils auraient pu le tourner autrement,
ouais.
pour effectivement, oui, biologiquement, c'est vrai, à partir du moment où tu as tes règles, tu peux avoir des enfants. Ils auraient pu le tourner comme ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout tourné comme ça.
Oui, mais là, du coup, le tourner de la manière biologique, ça aurait aussi impliqué, mentionné la contraception, les rapports sexuels, etc. Ouais. Et c'était pas du tout l'objectif, là. Clairement, c'était plus l'entrée dans, devenir une femme. Donc, l'entrée dans le monde des femmes, et c'est pour ça qu'il la félicite, en mode... félicitations, tu es une vraie femme, entre guillemets, où tu vas pouvoir accomplir ton destin de femme.
Mm.
Et c'est pour ça que c'est un peu gênant pour nous et de se dire, ah là là, mais ils en font des caisses, même pas d'un point de vue narratif ou intéressant, où on se dirait, c'est une étape sociale importante dans un groupe de copines.
Mm.
C'est là, c'est pas une étape sociale, c'est vécu comme une étape mystique quasiment, tu vois.
Mm.
Le corps de la femme qui devient fécond.
Mm-mm.
Pour porter la vie comme le Seigneur l'a voulu. Voilà. Ouais. C'est un peu ça le truc que je pense qui est gênant et le fait que ce soit toujours rapporté au père. Que ce soit vécu. Toutes les intrigues des enfants, on le disait, servent à nourrir l'écriture du sermon de Eric. Mais là, toutes les intrigues des enfants servent à nourrir le personnage d'Eric, à nous le présenter comme un révérend hype. Genre, ouais, je suis capable d'aller acheter des protections hygiéniques pour ma fille et tout. Alors, effectivement, dans les années 90, ça devait être ouf.
Ouais, c'est ça. Moi, en fait, ce que je trouvais... Disons, si je peux en retirer un point de positif de cette intrigue, c'est que le père se... Alors, bon, trop, mais il essaie de s'impliquer quand même dans la vie de ses enfants.
Mmh.
Et effectivement, c'est pas... Le stéréotype, on va dire, du père qui veut surtout pas en entendre parler, et, oh mon Dieu, des règles, ah, d'où tu demanderas à ta mère. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a quand même ce truc-là qui est bien, c'est-à-dire que, pour une fois, le père de famille s'empare du sujet. Et effectivement, je pense qu'en 96, c'était pas si courant que ça, quand même, dans les séries. Mais je trouve que le bon point s'arrête là, quoi. Parce qu'après, c'est trop.
Alors après, c'est un bon point qui mérite quand même d'être relevé, parce qu'effectivement... On pourrait se dire, voilà, c'est jalonné de bons sentiments et de sentiments religieux. Et du coup, souvent, ça implique une certaine fermeture d'esprit sur les postures familiales de l'homme et de la femme.
Mm.
Et c'est vrai que là-dessus, même mon souvenir global de la série, c'est quand même que, comme la cellule familiale nourrit l'ensemble des arcs narratifs et des intrigues, l'entente... Et est au cœur de cette famille, et la discussion et la communication. Alors, on fait poser ça sur le fait que le Seigneur souhaite qu'on s'entende avec son prochain, et donc il faut forcément échanger et tout. Mais c'est vrai que c'était un bon point globalement de voir des rôles familiaux et des postures familiales assez bien réparties. On voit le père faire la bouffe sans que ce soit une catastrophe. On découvre que... Annie, pendant qu'elle est enceinte de ses enfants, en fait, elle développe des lubies. Et elle apprend à faire des choses. Donc, elle a appris la plomberie quand elle était enceinte de Marie. Elle a appris l'électricité quand elle était enceinte de Marie aussi, je crois. Et à cuisiner des plats régionaux quand elle était enceinte de Simon. Donc, on découvre, en fait, qu'elle sait faire de la plomberie. Et c'est elle qui se met sous l'évier pour réparer un truc.
Mm.
Sans que ça soit relevé trop. Et ça, c'était plutôt cool, c'était plutôt agréable à voir, de se dire « Ah oui, c'est vrai que les postures familiales et les figures parentales avaient des choses assez souples, en fait. Ils étaient plutôt très complémentaires, et ils s'entendaient bien et ils discutaient assez souvent, quoi. » Donc ça, c'était cool de manière globale, je me souvenais un peu de ça.
Oui, oui, c'est vrai. Marie, elle, son truc, c'est elle aimerait embrasser un garçon.
Mmh.
Et c'est surtout quand tu vois en fait la position du père et de son frère même sur cette question-là. Déjà, tu te dis ils ont des avis très très prononcés pour des trucs qui les concernent pas des masses en fait, hein, on va pas se mentir.
Oui, parce que les parents ont interdit à Marie de sortir avec des mecs plus vieux qu'elle. Et quand
après, c'est vrai qu'elle a 14 ans quand même. Mais bon.
Oui, mais après elle sortir avec un gamin de 15 ans, bon. Voilà.
Oui, oui, mais bon, tu sais, on sait aussi qu'entre 14 et 16 ans, t'as une différence quand même.
Oui, voilà. Mais après, on parle de sortir, donc un truc consenti.
Oui.
Voilà.
Il est date à l'américaine, quoi. Donc
oui,
voilà. Voir un film, quoi. Voilà.
et en fait, c'est vrai que sur cette situation-là, c'est très clair au début de l'épisode, non, elle sortira pas avec des mecs plus vieux, c'est niette. Et ensuite, quand Marie exprime le fait qu'elle est trop grande et qu'elle veut embrasser quelqu'un plus grand qu'elle, ça, on pourrait en reparler aussi de la représentation typique de la masculinité où les hommes doivent être plus grands et plus forts que nous, bref. Et ben, là, d'un coup, les parents s'expriment sur le sujet en disant « Oui, donc on accepte, mais il peut avoir que un an ou deux ans max et tout. » Enfin, qu'est-ce que c'est que cette horreur de « Tu décides pour quelqu'un d'autre et... » Bref, oui, c'est assez affreux. Et la mère, elle est un peu dedans aussi. Hein.
Ouais, mais en fait... Je suis un peu partagée là-dessus parce que c'est vrai que tu te dis, bon, c'est quand même bien qu'ils contrôlent les fréquentations de leur fille. Enfin, bon, tu te dis, elle a que 14 ans, quoi, donc c'est normal qu'ils lui disent pas, bah tiens, vas-y, fais ta vie, rentre à pas d'heure et tout, quoi. Enfin,
non, mais
contrôle... ça me choque pas.
Le mot contrôler les fréquentations, non. Genre, tu supervises, tu chapotes, tu fais attention, mais tu contrôles pas. Enfin...
Non, mais non, je veux dire, garder un œil, tu vois, sur.
Ouais.
Qu'ils fassent attention quand même, ça ne me choque pas. Moi, j'étais plus gênée et embêtée par le comportement de Matt.
Ouais, de son frère.
De son frère, donc qui a 2 ans de plus qu'elle, et qui, alors ok, on peut se dire, c'est le grand frère, il veut protéger sa petite sœur et tout, je veux dire, sentiment noble, tu vois, au début.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est la manière dont il raconte ça, le frère se sent quand même un pouvoir et une autorité suprême sur sa petite sœur. Je trouve ça dingue, quoi, parce qu'en fait, bon, alors pour rentrer plus dans le détail, donc Marie a un crush sur un des amis de Matt.
Oui.
Donc, qui a l'âge de Matt, donc 2 ans de plus que Marie.
Ouais.
Et elle a un crush sur lui. Mais bon, enfin, c'est un crush d'une gamine de 14 ans, donc elle lui fait des petits sourires, elle le regarde sur le côté, enfin voilà, quoi, un peu mignon, on va dire. C'est pas comme si elle lui sautait dessus, bon. Mais on comprend qu'il y a un crush. Et puis, le gars a l'air plutôt réceptif.
Ouais.
On va pas se mentir. Mais bon, voilà, une petite flirtaison, mais c'est pas ça, un petit flirt.
Oui, un flirt, c'est flirtaison. Bon, ça, c'est flirté,
un petit flirt mignon. Enfin, franchement, je trouvais ça plutôt mignon ouais. dans l'épisode. Parce que tu vois qu'ils sont un peu timides, qu'ils se plaisent, mais que voilà, c'est gentil, quoi, c'est mignon.
Mm-hmm.
Et le frère, tout de suite, va voir Marie et lui met un stop. Non, mais en fait, c'est mon pote, fais pas ça. Je suis pas d'accord. Alors déjà, ok, mais on t'a pas demandé ton avis. Oui, et après, il fait pareil, il va voir son pote, il dit, non, mais en fait, c'est ma sœur, donc non. Et son seul argument, c'est ma sœur.
Oui, mais parce que souvent, le sentiment noble que tu décris au départ en mode « oui, il veut juste protéger sa sœur », en fait, non, c'est un faux argument pour contrôler encore le corps, les relations des personnages féminins qui t'entourent, quoi.
Bah, c'est, en fait, ouais, parce que c'est vrai que... Bah, puis c'est surtout le... Ok, tu peux... À la limite que tu trouves ça bizarre, entre ouais. guillemets, en se disant, ouais, mon pote sort avec ma sœur, c'est chelou, puis bon, c'est vrai qu'il a 2 ans plus qu'elle. Enfin, tu vois, qu'il soit pas fan de l'idée, c'est un truc que tu peux comprendre.
Ouais.
Mais c'est la manière dont c'est présenté, où c'est, voilà, le seul truc, c'est, non, mais c'est ma sœur, comme si son pote était le pire des salauds.
Oui, c'est vrai.
Et aller, en fait, sauter sur Marie, on sait pas. Et tu te dis, c'est quand même ton pote. Donc, a priori, c'est que t'es un peu confiant. Surtout qu'ils nous font comprendre que c'est des potes d'enfance, quoi. Enfin,
oui,
c'est vraiment des années qu'ils se connaissent.
Oui, parce que Marie mentionne qu'elle est amoureuse de lui depuis... Enfin, qu'elle a un crush depuis
qu'elle, depuis qu'elle a 10 ans. Et puis même, tu comprends voilà, qu'eux, ils ont un passé, vraiment une amitié qui date pas d'hier.
Ouais.
Donc, tu te dis, a priori, c'est ton pote, le gars. Donc, tu le connais un peu, t'as un peu confiance en lui. Tu l'apprécies, hein, quand même, a priori. T'es censé savoir que c'est pas un gros salaud, quoi. Donc, à partir de là, si il est assez bien pour être ton ami, pourquoi il serait pas assez bien pour juste aller au ciné avec ta sœur, quoi ? Parce qu'encore une fois, ils ont 14 et 16 ans, on n'est pas sûr, ils vont pas se marier, quoi. Hein. On est sûr.
D'ailleurs, plus tard dans l'épisode, quand finalement on autorise
oui.
Marie à être avec ce garçon, je me souviens plus de son nom.
Jeff.
Avec Jeff, oui, c'est vrai qu'il a un nom de merde. À être avec Jeff seule. Ils font quoi ? Ils jouent au basket.
Oui, voilà. Et en plus, devant la maison, alors que toute la famille est dans la maison, en plus. Donc, on n'est quand même pas sur un truc...
Et c'est en fait, c'est de la... Oui, c'est ça, c'est le... c'est faussement bienveillant tout ça, en fait, c'est très contrôlant, c'est très réducteur, c'est réducteur pour le mari, parce qu'en fait, personne ne lui fait confiance pour savoir ce qu'elle veut, et pour savoir ce qu'elle peut faire, et ce qu'elle se sent capable de faire, et ce qu'elle a envie de faire, en fait. Mm-hmm. En fait, tu les vois en plus, un moment, Matt et Eric, donc le père, surveillés par la fenêtre, tous les deux, en train d'épier ce qui se passe, soi-disant pour protéger Marie, mais en fait, ça, c'est un vieux ressort scénaristique dégueu, et pour le coup, bien religieux de merde, parce que en fait, il protège pas tant Marie, qu'il protège sa vertu, donc sa valeur. Une femme, tant qu'elle est pure, pour continuer dans les clichés un peu para-religieux, une femme, tant qu'elle est pure, donc tant qu'elle est, elle n'est pas souillée par un homme, elle a encore de la valeur, c'est encore quelqu'un de bien. Et donc là, ce qu'il cherche à protéger, c'est pas tant le cœur de Marie qui pourrait être brisé si jamais ce garçon lui rendait pas son affection. C'est pas tant lui éviter d'être avec un connard, parce qu'apparemment, tu le disais toi-même, Jeff, c'est un ami de longue date, donc c'est sans doute quelqu'un qu'ils apprécient.
Oui, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est pas un connard, mais en tout cas, oui. A priori, Matt, parce que c'est son meilleur ami d'ailleurs. Hein, c'est pas juste un ami, c'est son meilleur ami. Matt l'apprécie, et puis même les parents. Enfin, je veux dire, dans l'histoire, on comprend que les parents le connaissent, le Jeff.
Ouais.
Ils l'ont côtoyé, qu'a priori ils l'apprécient. Donc, en plus, voilà, ils le connaissent. C'est pas comme si tu te dis, ça peut être rassurant pour des parents de savoir que tu connais le gars avec qui fricote ta fille, quoi.
Ouais.
Surtout si tu l'aimes bien, a priori, c'est quand même plus rassurant qu'un inconnu.
Ouais, mais du coup, voilà, c'est pas tout ça qu'ils sont en train de protéger chez Marie. En fait, ils protègent sa valeur marchande, le fait que elle est pas souillée, quoi. Et puis d'ailleurs, en plus, c'est même pas sous-entendu du tout. C'est Matt le dit quand il discute avec ses parents de la situation de Marie. Il dit, mais vous savez pas ce que les garçons de mon âge, à quoi ils pensent, en fait.
Ouais.
Vous savez pas ce à quoi les garçons de mon âge pensent. Voilà, c'est mieux.
Non, mais je suis d'accord, mais c'est qu'en plus, dans tout ça, dans toute cette intrigue-là, ça part quand même toujours du principe que Jeff, lui, sera chaud pour n'importe quoi, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que, parce que, bon, en plus, enfin, je veux dire, au début de l'épisode, l'attente de Marie, c'est d'avoir son premier baiser avec un garçon.
Ouais.
En plus, tu te dis, elle a 14 ans, c'est pareil, c'est un truc de son âge, quoi. C'est pas outre super choquant.
Et puis, elle le dit, un peu comme Lucie qui dit, toutes mes copines ont mes règles, Marie dit, toutes mes copines ont déjà embrassé quelqu'un.
Voilà. Il y a aussi le côté être comme tout le monde, je veux pas être à la traîne, voilà. Et puis, t'as 14 ans, ça paraît pas dingue que ça lui passe par la tête. Mais c'est sa seule attente. C'est pas comme si elle souhaitait avoir des relations sexuelles ou... En fait, elle aimerait bien juste avoir un flirt avec un gars qui est un gars qui la regarde un peu. Enfin, mais on est dans un truc très 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 enfantin encore, je trouve. Tu vois, c'est pas.
Oui.
Et donc Marie a cette attente là qui est en gros un baiser, de préférence avec Jeff parce que ça fait des années qu'elle le kiffe. Mais c'est vrai qu'on se dit jamais, peut-être que Jeff, même si effectivement il nous faut comprendre que lui aussi il aime bien Marie.
Mm-hmm.
Ils disent pas que peut-être que lui il aura pas forcément envie de l'embrasser, ou en tout cas peut-être pas tout de suite, ou que même s'il a envie de l'embrasser, peut-être que lui-même se dira j'ai 2 ans de plus, on va peut-être pas précipiter les choses. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait c'est vu quand même que du prisme de Marie, et Marie elle veut ça, mais comme elle a 14 ans et c'est une petite fille, on va la protéger et machin, mais ça part quand même du principe, je trouve, que en face, le Jeff, de toute façon, ça va être un gros porc. Qui en gros prendra tout ce que Marie lui offrira, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Alors que, paradoxalement, je trouve que le Jeff, il nous le montre sous un jour plutôt sympa. Tu te dis, franchement, effectivement, ça a l'air d'être entre guillemets le gendre idéal, comme ça, de ce qu'on en voit.
Ouais.
Tu te dis, franchement, comme premier flirt de leur fille, il pourrait faire bien pire. Hein.
Oui, c'est sûr.
Franchement, tu te dis, la Marie, ça va, elle a pris le bon, quoi, concrètement.
Ça rejoint l'idée que. Jeff, il n'est pas considéré comme un humain ou comme une personne à part entière, mais comme un potentiel prédateur pour ternir la réputation de Marie, gâcher sa valeur de pureté, quoi, en fait. De manière un peu simpliste, on pourrait revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la cellule familiale, ils sont en train de protéger la cellule familiale avant tout. Là, c'est pas trop ça. Ils protègent L'idée d'une pureté féminine absolue à avoir, c'est que tu dois rester douce, innocente et gentille et pas exprimer des envies rapport à la chair, quoi.
Mm.
Bon, là, tu le disais en plus, elle est pas dans cette expression-là, mais tout de suite...
Pas du tout, elle a 14 ans, quand même.
Oui, mais tout de suite, c'est perçu comme une porte d'entrée vers ce genre de désir, en fait.
Mm.
C'est le début de la débauche, quoi. J'ai genre, oh là là, mon Dieu. Alors, là où c'est un peu problématique, c'est que le personnage du père nous est présenté dans la série comme quelqu'un de très bon, bienveillant et tout machin. Mais, je suis désolée, il faut qu'on en parle.
Non, mais oui, t'as raison, c'est l'éléphant dans la pièce, là. On oublie.
Ah, c'est horrible, bref. Donc... mais donc c'est le personnage du père est joué par un acteur qui s'appelle Stephen Collins, et ce fameux Stephen Collins a révélé en 2014, hein, c'est ça, hein, il a révélé à sa femme en 2014 qu'il avait abusé sexuellement de plusieurs gamines mineures. Alors il y avait des années de cela, donc c'était tombé sous le coup
La prescription.
De la prescription. Donc voilà, il est... Donc, bref, il a confié à sa femme qu'il avait agressé sexuellement des mineurs. Et en fait, c'est vrai que c'est horrible parce que... Enfin, regardez la série, là, en le voyant agir en bon père de famille et dans une posture ultra dans la bienveillance, l'écoute, l'accompagnement et enfin faire des câlins, des embrassades, parler de sujets avec ces jeunes actrices mineures, j'avoue que c'était un peu dur de faire abstraction de la personne que cet homme est par rapport à la série. C'était costaud, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui cette série pas possible, impossible de la revoir. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses à redire, de pas spécialement tout le temps reluisant sur cette série.
Ouais.
Et je pense quand même que le spectre des révélations sur Stephen Collins plane.
Oui, bah quand t'es au courant, oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu peux pas ne pas y penser, quoi, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, nous, lors de la première diffusion, forcément, on savait pas ça.
Non.
Et donc, on n'avait pas ce ressenti-là, forcément.
Bah, on avait pas ce prisme-là, on n'était pas ultra fan non plus de la série, parce que trop de bienveillance.
Non, mais on regardait honnêtement sans oui. avoir un flingue sur la tempe.
Ah oui, non, on laissait...
Voilà, on regardait ça, alors effectivement, ça devait pas nous laisser un grand souvenir, mais on regardait quand même des épisodes entiers.
Tu l'as dit toi-même, le souvenir était périssable. Hein.
Oui, mais voilà, je veux dire... On a quand même suivi ça un petit peu à un moment. On connaissait les persos, on connaissait les intrigues. Moi, il y a encore pas mal d'intrigues dont je me souviens.
Ouais.
Donc voilà, c'est quand même une série qui nous a accompagnés un petit peu, quoi.
Comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin.
Attends,
mais je pense qu'il faudrait qu'on... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton lancer. Mais faudrait...
Non, en fait, il faudrait que tu en prennes un et que tu le remettes à chaque fois. Hein.
Non, moi j'aime bien quand tu le fais, c'est plus convaincant et tout ça. Et puis, ou alors à la limite, il faudrait que t'en mettes un, mais que tu changes pas secret d'histoire, mais retrouvez-nous dans Sister's Corner, un truc comme ça, je sais pas, ou change le nom, fais quelque chose, un autre truc, mais on enlève secret d'histoire maintenant. Je sais pas, je te laisse mettre, enfin maîtresse plutôt, créatrice de tes envies.
Merci de votre fidélité et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Sister's Corner. Merci de votre fidélité et à rendez-vous...